What's up, everybody? This is the MMA Talk Show, and we're back this week with a great episode for you guys as we are speaking to none other than Charles Jourdain, who is fresh off an amazing win at UFC Vegas 45, where he defeated Andre Ewell by decision, his first ever decision win in his career. It was an amazing moment, and we're going to talk about that, and we're going to talk about plenty other stuff, as it is always the case with Charles. Of course, the interview's in French, so sorry for my English audience, but don't leave yet, because we are still here to recap everything that took place and did not take place, unfortunately, this weekend. And we're going to start with the bad stuff, for sure. Tarpsov Fight Club were ready to present their first ever MMA event, Brawls by the Falls in Niagara Falls, on Saturday, December 18th. And, you know, there's this new variant out there that is bringing the cases numbers of COVID up quite dangerously. Some would say, some other would say that we're plenty much all vaccinated and that we shouldn't care about this stuff. I won't touch on that, to be quite honest, today. I don't want to get into that debate. But, man, the government pulled the event on weigh-in day. Basically, everybody were there. I was speaking with people from the promotion like the day before, and everything was good here. There were new restrictions, like half of the audience in the arena and stuff like that, but they were ready to deal with these new restrictions, and they were ready to put on the event. They had booked an amazing venue in Niagara Falls. They had everything. The fighters were there at the hotel. They were cutting weight. They were getting ready for the weigh, and some people were already on weight, and the government just pulled the plug and canceled the whole damn thing. Super short notice, like we've seen this year with Quebec, where they postponed the Samurai event how many times because of the vaccination passports. And in Quebec, they're requiring the fighters to get vaccinated in order to compete in Quebec. So, that, of course, you know that vaccination is not the most popular thing amongst fighters. So, it was kind of rough to deal with that and to find a full card of vaccinated fighters. So we had that hurdle in Quebec. They had the hurdle in Eastern Canada, in Nova Scotia, where they basically did the same thing with the third wave. The third wave was basically nothing, to be quite honest. It was really it wasn't much of a threat. But they postponed the old event. They canceled the old thing, and Derek and Fight League Atlantic, they just had to move the fucking event to another province in New Brunswick on like 2 weeks' notice. They had to push the event back just a little bit, but they were able to make it happen. But there are hurdles with the commission again, and they just did that stuff in Ontario now. And I don't think it's the commission per se. It's probably more the like public health and the government, but like, man, Quebec and Ontario were really getting the worst out of these restrictions. Like, yes, there are restrictions almost everywhere, even Alberta now, they're implementing restrictions and stuff, which wasn't really the case in the beginning, but I know it's not pleasing everybody there, but still, they can have events with crowds and stuff, which it's not the case, and they're beginning to shut shit down even more. In Quebec, they just shut down gyms like for the holidays, so it's getting absolutely fucked up once again. And I said I wasn't gonna get into that shit, and still I'm talking about it, man. But it's fucking disgusting for Tarpsov, the guys back there, Christian and all the team. Fuck, man, they invested so much money into that shit. I don't know if you guys know how much it costs to put on an MMA event. And like, since everybody was on weight, and like the guys at Tarpsov, clearly they're good people. Like they already said, Christian already said that Ali is not in there for the money. He's in there for the love of the sport and the passion, because, and it really shows, because he paid everybody. He paid each and every fighter on the card, their purse. So, man, he's not even getting a return on any of that stuff. So the purses paid to the fighter, it's another expense that they're not going to see back. And that's the booking of the venue and everything. So, like, it just cost them so much money. And that's the problem throughout all the whole pandemic with the restaurants and bars and everywhere. And now it starts off, they just spend hella money to be able to book an event and do an event in these times where there's restrictions, masks and everything. And like, be able to maneuver between all of that stuff to put on a great event for the fans and have some amazing fighters and amazing fans on it, and just to get it canceled on way in morning, it's fucking disgusting, and it's sad, and it's bad for the sport. And they allowed the Maple Leafs game, and I know the Montreal Canadiens, they basically postponed all their games, but I know that, I don't know what's the case with the Leafs now, but I think they played at least a game since then, and the Raptors and stuff, and they just don't care about MMA, man. They don't care about us. We're going to be the first ones to be canceled every time, and it's just fucking bullshit, because there's people like the guys at Tarpsoff who are like real passionate about this shit, and that invest their hard-earned money into building an event that gets canceled basically on way and day. So it's absolutely gutting. It's sad. I was supposed to be there with the guys, and like, I will be there once they rebook it. I know they tentatively put out a date in April, I believe, or something. But like, whatever, I'm gonna be there for their first event. I'll be there to represent and to show some love and to put out some good content for you guys around these events, because these people are putting so much of their hard-earned money and time into building this stuff, and it's just so easy for the government and the authorities to just pull the plug on it on way and day. Like, they just don't give a fuck about any of the effort that was put into that stuff. So it's just really sad. It's just absolute bullshit. It's sad that we have had to go through this in Eastern Canada or Central Canada, whatever the fuck you call it, like Quebec, Ontario, and the Eastern provinces of Canada. We've had to deal with that bullshit a lot more than people out west. Like, when you go Manitoba and west, not much problem, but like, yeah, restrictions and stuff, but we don't see COVID the same way. Let's just say like that. It's like Florida and the southern states and the rest of the United States, you know, two different mentalities. I guess that the divide in Canada happens when you cross from Ontario to Manitoba. And sadly enough, we're on the bad side of it. So, man, fuck us. What are you going to say more? It sucks, man. Yeah. And like, let's move on to some more positive stuff, because Unified MMA, we're putting on an event, and it was amazing, and I'm really happy it was, because Unified really used us to seeing the best events in Canada, basically. Them and BFL, they were like really like nose to nose for the best MMA promotion, the most prestigious MMA promotion in Canada, and they both came back this year, and I feel like for Unified, they had a tough run. And the events were good. I'm not going to say that the events were trash or anything, but you know, often the main event is what makes or breaks an event. And for Unified, their comeback event was really good. We have some amazing performances all the way through, but the main event between Graham Park and Neil Berry was probably the best fight they could put on at that time. Like, let's take it back 6 months or even more. It was tough to get some people to fight in Canada around that time, to be quite honest. I think that the fights that we've had this year were probably the best fights that could be put together, and it was just that for that date, that was the best fight that they could put together, and it was not going to be a competitive fight, and it wasn't. And like, Graham Park got the job done in the first round, 3:30, but like, it wasn't spectacular. It wasn't like really anything. So the event kind of closed out on a okay note. So it was still great. The great time, one of the best fights of the year between Neil Anderson and Majed Amu, but still like, not the absolute sparks that we're used to with Unified. Then they had the 31st event, and once again, they absolutely got screwed, because they probably had one of the best Canadian MMA fights that they could put together between Shane Campbell and Michael Hill, and we all know what happened there. So they had to take Matt Krycko from another fight on the card and put him into the main event on like 24 hours notice against Shane Campbell, and Shane, with the change of opponent, it was just not an exciting fight there once again. It was a good performance for Shane. He was able to dominate all the way through. But like, the way that the loss of the Hill-Campbell fight shuffled the whole lineup up, it kind of gave us two good events, but like, not exactly what we're used to with Unified. Like, just a little level below it. But that event, Unified 42, had an amazing main event. The main event happened. Almost every fight on the card happened, and they were amazing. We had some amazing finishes, some knockouts. We've had some good fights, back and forth contests. We've had some weird stuff happening, and you know, you need all of that to make a good event. Like every memorable event has a little bit of everything. Some fights that are weird, some fights that are back and forth, some fights that are amazing knockout finishes, and that's exactly what we had with Unified 42. It's really an amazing return to form, finally, after, like, because I was kind of bitching about the two first events, but like the thing that I just want to make known is that it's not Unified's fault. They did everything that they could to put on the best fights, and sometimes you're trying to put on the best fights and they just don't deliver the way they think that you think that they were going to deliver. And sometimes there's just some weird shit happening, like in the case of the Campbell Hill fight, and that kind of just derails the whole event. And it still happens, but it's not as memorable as it could have been. But that one, Unified 42, absolutely memorable. The first fight of the evening started off with a bang. Ramil Kamilov making his pro debut against Tyrol Gizelbrecht. And I think the first or second punch that Kamilov landed dropped Gizelbrecht, and he was able to scramble back up and really go absolutely crazy on Kamilov. Like, the fight was advancing and we were really feeling like Gizelbrecht was taking over. He was absolutely relentless, throwing some volumes, shooting him with some takedowns, like imposing an absolutely ridiculous pace on his opponent. And like, he was really on his way to winning that first round, even though he got dropped in the first moments. But Kamilov landed an absolutely wonderful counter left hand and knocked his opponent out, was able to finish it with some ground and pound just a little moment after. And super good pro debut for Kamilov. Tyrol Gizelbrecht absolutely looks good, and like, there, it's not a bad loss for him. Like, he's not losing any stock. I'm still believing in him as a prospect, even though he lost that fight. So really good performance for both, and an absolute like wild way to start the event off. And it really started the event off like on the best foot possible. And then we moved on to another lightweight contest between Stephen Thomas and Jed Grant. Jed Grant had a draw in his pro debut. The guy is an absolutely hyped-up prospect. He's super good, one of the best amateur fighters that we've seen recently in Canada. And he made his pro debut with such fanfare and got a draw. And he wasn't happy with that performance, of course. So when he came back to Unified for Unified 41 against Cornelius Kron, he really put on a good strategic and smart performance. He was able to take the fight down and secured like the really good positional TKO finish. And like I said, it wasn't super spectacular. It was getting the job done in a really efficient way, but it wasn't the sparks that we were expecting from such a prospect. And I feel like that fight was really the way to answer the draw. Like, there was no way that he was going to go out and not win in his two first pro fights. So he made sure that in the second fight, he got the job done, he got the win, and he really came out here and was way more exciting, way more explosive. The sparks that we've seen as an amateur were there in that fight. He got the early knockout in the 1 minute and 30 seconds approximately, and like, that's what you want to see from such a good prospect. He's able to fight smart and win fights in a smart way, but he's also able to go out there and wow us with some amazing knockouts and stuff. So props to Jed Grant, one of the best prospects we've seen made his pro debut this year, and I can't wait to see what's next for him in the future. Then Cole Campbell, Chris Chapman. A great fight, good back and forth. It was amazing to see them together, because Chris Chapman, I feel like he could make 170 maybe, but he mostly fights at 185. And that fight was at 175, but he mostly fights at 185. And like, he's a big guy. He's a big and strong guy. And Cole Campbell was way smaller than him. And Cole Campbell has fought like every weight class possible, but he's gone all the way down to lightweight at some point. So it really looked like a lightweight was fighting a middleweight. And in the beginning, Chapman was able to wear on Campbell and to to prevent him from taking him down and even securing the better positions while defending the takedowns and really getting a good first round. I feel like Campbell kind of adjusted to his style and was able to take over later in the rounds. And two of the three judges even gave the first round to Cole Campbell. I feel like maybe Chapman deserved it a little better, but like anyway, it doesn't really matter because once the adjustment was made by Cole Campbell, he was really able to take over with his takedowns and get some amazing time on top of his opponent, deliver some damage, get some good positions, and really easily win the two last rounds of this contest. So either way that you scored the first round, Campbell clearly won the two other rounds and was able to finally get a fight and get a win this year. Man, what a frustrating year for Cole Campbell. Was supposed to fight on Unified 40, couldn't fight, was supposed to fight at Unified 41, made it all the way through the fight, but he was the guy that they took Matt Krakow from, basically, to go fight Shane Campbell. So the poor guy was ready to fight and they just took his opponent and basically gave it to his teammate, Shane Campbell. And like, what a frustrating way for Cole to go out. Two fights that get canceled in two events. So finally, for the third event of the year, he was able to make it all the way through the fight and get his opponent and keep his opponent all the way up until the fight. And it happened. It was a good contest. He got the win. A good job to Cole Campbell for that one. And good job to Chris Chapman, too, who fought hard. It wasn't his night, but still a really entertaining fighter, Chris Chapman. I really love both of them. So good job to both guys. Then we had the pro MMA debut of Simon Marcus. And when I was talking about the weird stuff, that was the weird stuff. First off, it was weird because like Campbell and Chapman, these two guys didn't look like they would belong in the same weight class at all. It was a 195 fight, but Anton Tokarczuk is a 205er mostly, who's fought all the way up to heavyweight because he just does not give a fuck like that. And Simon Marcus, basically look like a 170 in there. Like, I know he has fought Israel Adesanya in the past, and he could be a good middleweight, to be honest. He could fight at 185 without any problem, but I feel maybe it was just the weight difference between the weight and size difference between the two guys, but I feel like Marcus could be a 70. So once again, the two guys look two weight classes apart, and Simon Marcus was absolutely outskilling his opponent. He's an amazing kickboxer, and a former Glory champion, and also there was no doubt that he was going to be the better striker, but I think that he found out soon enough that he was not going to be able to knock his opponent out. Like, Tokarczuk is absolutely one of the toughest guys. Rarely he gets finished. He's always going to the later rounds of his contest, even when he's fighting at heavyweight. And he's a really good fighter, and he's really tough. And it was just, he was too big. He was too big to get knocked out by Simon Marcus. So Marcus really fought a smart fight. He was able to get on his bike and really make his opponent come to him and counter him effectively while not really turning the volume up a notch, because he knew that, like, that was a trap fight for him. He could really get tired while trying to knock an opponent out that he was not going to be able to knock out. And then once you're super tired against a more experienced fighter, it was his first pro fight. Tokarczuk has 10 pro fights. So he could have easily gassed himself out and absolutely, like, get subbed or get, like, lose the fight because he didn't manage his gas tank well enough. So he was able to do that. It's sure that it did not give for the most exciting contest of the evening. It was a lot of chasing by Tokarczuk and a lot of circling around by Marcus, and he was able, yes, to land some good strikes. You can see that the guy is technically amazing, super powerful, but like, he really had to fight smart in that fight and not fall into Tokarczuk's trap. And it ended in a really weird way too, because in the early in the third round, Marcus basically eye poked Tokarczuk, and the referee brought in the doctor. The doctor asked Tokarczuk, "Can you see?" And he said, "No, but I still want to fight." But like, when you tell the doctor that you can't see, basically there's no other choice for him but to put an end to the contest. And that's what happened. The doctor put an end to the contest, and like, Tokarczuk wasn't really happy about it because he said that he wanted to keep fighting, but in a sense, you just can't tell the doctor that you can't see because, of course, the fight's going to be stopped. So a weird ending there, but fortunately enough for Marcus, since it was in the third round, they just went to the judges' scorecard and he had easily won the two first rounds of the contest. So he was able to get the decision win, the 2018 decision win in all three judges' scorecards. So good for him. And man, I'm really excited about what's next because I feel like once he's at his weight, he's against some people of his size, he's going to spark some people out. He's an amazing kick. Boxer, he's super fast, super explosive, and amazingly technical. So great debut for Simon Marcus. Can't wait to see more. Then KB Bular, Brand Dewsbury. Man, Brand tried to bring the fight to KB, and KB just kicked him in his head for the first round knockout. And to be honest, I'm really happy about this performance because KB Bular can be such a frustrating fighter at times because, man, he's very good. Like, there's no doubt about it. He's super good. But sometimes he just does not throw enough. And I think that's what happened in his UFC run. He, like, every time he did something in his fights, like against Mikhail Lidis especially, like, you could see that he was the better fighter. You could see that when he was throwing the cleaner strikes, the longer strikes. He was good in maintaining the reach, the advantage he had in that fight. But It was just not enough. He had to throw a little more, and he just didn't. And that was such frustrating performances for him. And, you know, even his comeback against Tkachuk was not like the greatest fight we've seen this year. And, you know, that Tkachuk, like we've just said, he's weird with the stuff he does. And he's so super tough that you just don't want to fall to the like into the trap of getting tired while trying to finish a guy that you won't be able to finish. So KB took the smart way there too, but like sometimes he's just putting out frustrating performances and you see the flashes, but he's not able to capitalize these flashes into good wins and amazing performances. And that's exactly what he did here. So I don't know if I have to be happy, but I'm surely happy for him. I'm surely happy, but in another way, like, it's still kind of frustrating to see because, man, you're so fucking good. Why, like, weren't you able to implement this in the UFC? And I know it's easy to say, like, here sitting at work in my little office and saying, oh, you should have did this, you should have did that. And, like, I don't know what happened maybe at bad camps. I don't know, like, the behind the scenes of any of that stuff. So take it really lightly. But I feel like Andreas Michailidis is an opponent that he could have beaten. If they rebook that fight tomorrow, I'm probably still inclined on picking KB in that fight. So to see him just have that type of performance in that fight, I'm super happy for him. That's what he needed if he wants to build back to the UFC at some point. But, man, I'm just a little bummed out that we didn't get to see that KB Bueller in the UFC because the guy, like I said, is so good and he's got so much potential and he was just not able to show it in the big show. But with wins like this, that's how you make some noise and hopefully get back there soon enough. So really glad for KB. I think he could have done a better job. And then we had the two title fights, but the title fights only for Shane Campbell because Hubert Gevin, the guy from Holland that they brought, he missed weight. So he was not eligible to win the title, but fortunately enough, it was really never in question because Shane Campbell absolutely wrecked him on the feet, on the ground, an absolutely flawless and dominant performance once again for like the pound-for-pound best fighter in the local scene in Canada. Yeah, I know like there's guys like Elias that we're going to talk about in a few moments, or Olivier Aubin-Mercier, who like our Canadian fighters who are not fighting for UFC or Bellator, but are fighting like elsewhere, are fighting internationally for the PFL or for other promotions. So they're not really on the local scene that much. But like for the guys who almost exclusively fight for either BFL, Unified, or BTC, or Samurai, or like the Canadian promotions, like the best active fighter amongst that group of fighter who only fight for these promotions is by far Shane Campbell. There's absolutely no doubt the guy does not deserve to be here. He should be fighting better guys in better organizations. He absolutely needs to move on to the next step once again. He had his chance in the UFC, like Ronson. I always end up comparing these two guys, but it's so much that like they're two of my favorite fighters. They're two guys that have proven that they are UFC level for years, but their luck within the UFC when they were there was just not that good. And Campbell was able to win, but had some tough losses. And I feel like he could really be back there and have some success in the lightweight division for sure. So that's what I wish him for the new year, because, man, he can't just keep being here and whipping on these poor fools, man. Hubert Gevin was a good guy, 13-3, a kickboxing champion from the Netherlands, and like he wasn't facing off against a scrub or anything, and man, he just dominated him, finished him in the second round by TKO. Was absolutely dominant from start to bottom to finish, and the guy is now even more comfortable with his takedown, with his grappling. And if you want to add this up to the Shaolin Muay Thai, man, you're fucked. You're fucked when you're fighting Shane Campbell. So get this guy a UFC job, man, please. So we're gonna move on now to the main event of the evening. What they said was the best main event in Canada in 2021. I would argue that the best main event in Canada in 2021, even beforehand, was probably Dufault Prepelec. Like, when you're able to book two of the best lightweights in the country to fight each other, it's always going to be like the most technical and most competitive fight of the year. That's what happens with lightweights. But still, we had Marius Czeskiewicz, who basically got robbed in the contender series. He lost by decision, unanimous decision. I felt like he absolutely won that fight. He should be the guy fighting in the UFC right now, but unfortunately he suffered his first loss and hadn't fought since then. So it was his big comeback. The guy is not a champion currently in Canada, but was not a champion currently in Canada, but like he's known as probably, you know, the one of the two best middleweights out there, along with Aaron Jeffrey. So he was there and he was back to fight the 205 champ, Graham Park, who was moving down to 195. They were meeting at 195 for the 195 title. And Graham Park was trying to get a second belt. And really, since the guy came back to MMA, has been super successful and lost, was really staking his claim to get that next UFC call, especially at 205, where there's always need for more guys in these like higher weight classes. So it was an amazing opportunity to fight Marius and get the chance, if he won, to move on to that next level, to fight a guy and beat a guy that had proven that he was UFC level. But unfortunately for Graham, there was nothing doing with Marius. The guy is an amazing black belt on the ground, is an amazing wrestler who can always get these takedowns and get on top and really hammer his opponent with some really heavy and devastating ground and pound. But first and foremost, Marius is an excellent distance striker, an excellent southpaw striker, who has an amazing jab and some really good straight left hands. And that's what happened. He basically landed two amazing straight left hands in a row, and the second one just absolutely put Graham Park out in the first minutes of the contest, basically at 1 minute and a half, maybe even more. So absolutely dominant performance for Marius Czeskiewicz. The guy continues proving that he's absolutely elite. And like Shane Campbell, like, he's one of the guys that you want to see in the UFC next year. Basically, like, every year, every new year, I do my list of the Canadian fighters we want to see in the UFC next year. And I don't think I'll be able to do it this year, because, yes, there were some new fighters that got to the UFC, the Yoan Lendez, Jasmine Jezza the Vicious, Mike Malott. But all the guys that I had at the top of my list, like the veterans, like Marius, like Aaron Jeffrey, like Alex Morgan, Michael Dufault, Cal Prepelec, Shane Campbell, all these guys, they're still there. So basically my top 10 would basically be the same as last year if I had to do it again for 2022. So maybe I won't do it, but I digress. Amazing performance from Marius Czeskiewicz. We couldn't really ask for more. And an amazing main event, a highlight reel knockout, and that concluded what was a super exciting event from top to bottom from Unified MMA, one of the best events we've seen in Canada this year. So props to them, and I'm really happy for them to be able to finally put on an event to the caliber of events that we were expecting from them. They went through some tough luck earlier in the year. That wasn't their fault. They'd still tried to do everything they could, but that Unified 42 event was absolutely amazing. Shout outs to them. Then two other things before we speak to Shal. The first thing, Elias Theodoru was back for Colorado Combat Club, the 10th event. He was facing Brian Baker and he won. And I don't know what happened because I can't see the fight nowhere. I just saw the results on MMA Empire. And I said that I was going to mention our boy Elias because the guy is fighting a great cause for every stoner out there, for every people that need cannabis for their health, for their medication, basically. He's fighting to be the first legal cannabis fighter. He's applying for therapeutic use exemptions, for multiple states and multiple places. He finally did that for the first time this year for Rise FC in Vancouver. Of course, that like the BC Commission was going to be the first commission in Canada to approve a guy that has a therapeutic exemption for weed. And then he was trying to do the same in the United States. And of course, the first place that accepted him was Colorado. But man, you need to go out there to these places that are more weed lenient and start to build a precedent. And once you got a good precedent, it's going to be tough for all the other states to not give you these therapeutic use exemptions. So Elias is really breaking grounds for every fighter and every like person that needs marijuana to be able to function. You know, there are really some people that need that stuff to be able to function in life. Me, I just smoke it because I like it, but I don't need marijuana to be healthy. But there are some people that it's really the best medicine for them, and it's a natural medicine that like they don't have to take pills and take some weirdly chemical shit that they prescribe us and that we become addicted to that stuff. So really breaking grounds for Elias, and he keeps doing it, and we couldn't be prouder of him. And he's still winning fights and proving that he's one of the best middleweights in the world by doing so. So man, props to Elias. Keep up the good work, homie, and we're all gonna smoke a fat one in your honor, that's for sure, my man. And then Charles Jourdain, Andre Ewell, UFC Vegas 45. Amazing performance. The first round, you know, Andre Ewell always starts the fights really fast, and he seems to fade in the later rounds. For Jourdain, it's the absolute contrary. The guy is a slow starter, and he goes absolutely bonkers in the second and third rounds of his contest. So the dynamic of that fight was always going to be kind of in Jourdain's favor, but he had to be really careful in the first round because Andre Ewell, yes, he does not have like he does not have much depth in his game, let's say like that. He's mostly a striker. He's okay elsewhere, but not that good. And even in striking, he's mostly a boxer, and like he does not have variety, basically. That's what I'm trying to say. He throws five or six strikes repeatedly, and once you get used to these strikes, they're really able to parry and to counter and to do stuff. And like Ewell started off really well and landing some good shots on Jourdain, who is a slow starter, like I said. But you could really see that by the end of the first round, Jourdain kind of already had figured him out. So by the end of the round, my feeling was that Jourdain probably lost that round, but already had figured his opponent out and was going to put it on him quite roughly in the second and third rounds. And that's exactly what happened. He absolutely delivered a beating on him in the second round, was able to put him down and even get to the half guard and deliver some good ground and pound from there. And like really amazing offense by Jourdain, who's a whirlwind, who's an absolute tornado of a fighter. When he gets to go forward and be creative on you, he's an absolute nightmare. And you could really see that it was affecting Ewell's gas tank and Ewell's will. His will to fight was clearly diminishing in these later rounds. And as the second round ended, like it was clearly a 10-8 for Jourdain. As much as there's like two out of the three judges gave Jourdain the first round. Which I didn't, but still, they did. And I think that he had the momentum by the end of that round. So if you want to give him the round, it's okay. And then two out of the three judges also give Jourdain a 10-8 in round two, which was absolutely accurate. For round three, I got to give her props to Ewell, who kind of came back, but like I won't say came back because he didn't even come close to winning the round. He did some good stuff, who had more energy in the beginning of the round, but Jourdain quickly took that will back from him and was able to finish the fight with an amazing moment. Once again, was there screaming, getting super amped up, landed a wheel kick to the face that yes, it landed, but it didn't land super clean. And then you just started yelling at Ewell, who kind of motioned like with his hands to the side to him. And Jordan Spartan kicked him straight into the chest as the bell sound. And the visual of the end of the fight was Jordan laying, sitting against the cage as he just, Ewell had just got kicked in his body. Spartan kicked in his body, and he was just laying there looking at Charles. And Charles was screaming and posturing for the, like, the very small crowd at the Apex, but that crowd went absolutely bonkers when that fight ended. Charles put everyone up to their feet, and it was another amazing moment for the guy who came in with no contract in hand. It was his last fight of his UFC deal, and he just bet on himself like he usually does, and it worked out for him. We couldn't be happier for him. So absolutely amazing performance when he turned up with the leg kicks in round two. That's where everything changed. And super good performance. He's now ready to move up. And Cub Swanson, his dream fight, was fighting on the same card. And I think that, like, there's some mutual interest in that fight. So Jordan is trying to sign that new contract, get that Cub Swanson fight. That's the plan. And speaking of Jordan, we're now going to hear about him, hear what he has to say about everything. So here's the Charles Jordan interview. Hey, juste une petite affaire avant qu'on aille à Jordan, là, les petits chums. Vous allez voir l'entrevue à Couperette un petit peu à la fin. C'est parce que dans le fond, Charles, son sel est mort. Puis moi, quand il a replugué son sel, moi, il fallait que j'aille travailler. Là, c'était le soir, il fallait que je me pousse. Fait que l'entrevue à Couperette un peu, mais heureusement, on a crissement longtemps. Là, c'est une crise de bonne entrevue. Fait que, en tout cas, checkez ces petits chums. Hey, what's up, guys? On est fucking là avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Je suis content de t'avoir, mon Charles. Comment ça va?
On s'est parlé quand même à plusieurs reprises, peut-être ouais, pas sur le podcast, mais non, on se parle,
mais tu sais, le gros genre, on the podcast for the
on people, est là.
Tout, ça on faisait est un bout qu'on ne s'était pas parlé. Je suis content de te recevoir, Esti, après un autre move à la Jourdain, man, genre un Esti gamble de genre, moi je m'en calisse, le gros m'en va là, plus de contrat après ça, faut que je fasse le calisse de show, puis un autre pari gagné, mon chum.
Ouais, ben ça a été mon meilleur camp, mon meilleur développement au niveau physique, mental, technique, puissance, tout allait trop bien. Tout était on point. Puis je pense que je commence à vraiment trouver c'est quoi ma recette gagnante. Tu sais, j'ai essayé beaucoup de choses. La pression externe qui te dit OK, change de ci, change de ça, change de. Tu sais, tout le monde sait ce qui est bien pour toi, mais personne ne sait ce qui est bien pour eux. Là. Ça, c'est un de mes termes que j'aime utiliser. Mais là, je suis en train de découvrir c'est quoi ma formule. Puis ça va bien avec ça. Je suis en train de vraiment me fermer un sale team. Puis, tu sais, j'allais au Sherbatov pour sparrer. Puis il y en a qui disent oui, mais c'est pas des partners mondiaux. I don't give a fuck. C'était des bons gars, c'était des bons gauchers, c'était des gars qui m'ont permis d'essayer mon game plan, pratiquer mon game plan. Fait que je suis en train de me former vraiment une bonne équipe. Tout va pour le mieux en ce moment.
Bon, définitivement. Moi, c'est sûr que quand je te vois là-bas avec David Zimmerman dans ton coin, je suis quand même content de voir ça.
Man, il a été un aspect tellement incroyable. Tu sais, il y a la lutte MMA, mais une fois que tu as vraiment les fondamentaux de la lutte, je suis pas un lutteur, tu sais. Mais tu sais, il m'expliquait la philosophie de Georges. Puis il dit, Georges, man, c'était un des plus gros grinders quand il arrivait. Georges, il dit, je pouvais arriver et faire 5 matchs de lutte avec. Puis après ça, je retournais sur le coin. Puis il était déjà en train de lutter avec un autre. Il dit, Georges, tu sais, il m'expliquait un petit peu la philosophie de Georges, étant son ami et partenaire d'entraînement pendant tant d'années. Puis sa manière d'enseigner, tout était on point. C'est quelqu'un en étant extrêmement différents, nous ressemble beaucoup à moi, Fabio et Cyril. Fait que, tu sais, tout se jumelait bien avec David Zimmerman. Pour ceux qui le connaissent pas, là, David Zimmerman, c'est lui et son père qui ont forgé la lutte de Georges, l'essence de Georges au Montreal Wrestling Club. Fait que, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, surtout que son père était champion du monde. Puis, tu sais, dans l'Union soviétique, c'était une autre époque, c'était d'autres sortes de monde, mais tu sais, quand tu étais le champion là-dedans, tu étais un champion parmi d'autres champions. Tu étais le lion avec les lions, mais tu sais, c'était vraiment lui le top. Fait que, puis David a été forgé par cet homme-là qui est son père. Fait que non, ça a été un très grand atout à notre équipe.
Non, définitivement. Puis je pense qu'il y a le préparateur physique aussi qui était nouveau.
Non, Yarek, ça fait un an que je travaille avec. Okay. Par contre, quand tu veux développer un athlète physiquement, check, il y a un an, j'avais de la misère à squatter une plate. Maintenant, j'en squatte 3. J'avais de la misère à bencher une plate. Maintenant, j'en bench 2,5. Tu sais, ça, tout mon développement physique. Tu sais, quand je marchais vers l'octogone, peut-être c'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que je mumble, puis il y a de la musique, puis vous entendez les commentateurs. Mais je me disais, I'm a man now. Tu sais, c'est moi l'homme maintenant. Là. Avant, je voyais ma carrière, tu sais, à 23, j'étais comme, ah, c'est pas grave, je peux faire des erreurs. Je dis, non, non, il est là, là. Quand tu vas au gym, c'est là que tu fais tes erreurs, c'est là que tu t'entraînes fort. Puis quand tu arrives au fight, là, c'est la place pour performer, c'est pas la place pour apprendre. J'apprendrai en classe, j'apprends, on n'apprend pas pendant l'examen. C'est ça ma vision maintenant. C'est pour ça que j'étais tout le temps au gym comme un putain de guerrier à hustle. À chaque jour, je faisais de mon mieux. D'habitude, j'avais souvent des blessures, je peux pas aller au gym. J'avais une bonne éthique de travail, mais pas autant bonne que j'ai maintenant. Maintenant, chaque jour, je me lève, je me dis, gars, même si j'ai mal, je m'en crie, j'y vais. Puis j'étais capable de timer mes rests. Tout était beaucoup mieux. Je commence à vraiment trouver la formule pour un bon développement pour moi.
Yup. Moi, gros, veux-tu que je te dise exactement quand, ben, en fait, tu sais, quand j'ai vu le match-up avec André Ewald, je me disais, ah, tu sais, Charles risque de gagner, honnêtement, là, parce qu'Ewald, c'est un bon combattant, fait des super belles choses, il fait pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est comme, il y a 4-5 affaires qu'il fait, que c'est nice, puis quand il t'a lancé, ben, il essaie de te lancer dans un ordre différent, mais c'est 4 même 5 affaires quand même. Fait que, tu sais, je savais que tu allais être capable, tu sais, de le figure out, puis. Surtout le fait que lui commence très fort, puis il fade, toi, tu as tendance à être un plus un slow starter, si on veut le dire ainsi, mais tu es un esti de maniaque des deux autres rounds d'après. Fait que, tu sais, je me disais la dynamique de ce combat-là, mais il y a deux choses que avant même que le combat commence, j'ai checké, puis j'ai fait, OK, Charles, il y a ça dans la poche. De un, ben, j'ai checké ses jambes. J'étais genre big. La différence de meat, genre, après vos jambes, ça avait aucun câlisse de bon sens. Puis en plus, le gars arrive puis il se câlisse droitier. Ok, là, j'étais là, genre.
Ça, je l'ai pas compris,
J'étais
man.
genre.
J'étais comme, man. J'étais là, mais c'est quoi, quel plan de match de nouilles que t'as de commencer en droitier contre moi? Ça, je l'ai pas compris, mais d'après moi, il s'est dit ça parce que quand je me bats contre des gauchers, je chope tout de suite. Puis, je sais pas, il a dû dire, ah, oh, je vais attendre de voir un droitier, etc. Mais j'étais comme, man, le premier low kick que j'ai lancé, là, j'ai ressenti mon shin dans son os. Peux-tu vous dire qu'on a à peu près 2 pouces de meat avant de là, ça?
Ouais, c'est ça.
Bang! Puis là, j'ai comme fait, hostie que t'as pas aimé ça, man. Puis là, je me suis dit, dude. Après ça, j'en ai lancé 2, 3, il a commencé à se remettre en gaucher. J'ai fait, OK, gars, tu vois, t'as déjà de la misère, puis on est au round 1. Mais là, pourquoi Ewell, il est dangereux au round 1, c'est qu'il snipe. T'sais, il n'y a pas de l'air, mais il cognait dur. Pow! Puis après ça, il revenait, puis il est très évasif. Fait que pourquoi c'est un match-up qui aurait pu être dangereux pour moi, c'est touch and go. T'sais, si j'aurais pas été, on dit souvent, j'ai de la misère à allumer la switch vite, puis il aurait pu touch and go, puis j'aurais pu chase the wind. Puis tu sais, le monde, ils disent, man, t'as lancé 137 coups, je peux vous dire, il y en a à peu près 5 qui ont bien touché la cible. Mais pas beaucoup. J'ai beaucoup lancé aux jambes. J'ai fait des beaux body shots, mais il est très évasif. Il était très difficile à pogner right on the chin. Je pense que je l'ai pogné une fois comme il faut au deuxième. Même le heel kick, t'sais, on voit le gros highlight du heel kick. Mais le heel, t'sais, notre talon, comment il est fait, là, t'sais, il y a le talon ici, puis après ça, il y a le reste du pied. Ça l'a rien touché. Ça l'a pogné son poignet. Ça l'a claqué. Mais 80% de la force d'un heel kick, il est sur ton talon. Puis mon talon, je l'ai pogné sur son bras. Fait que, tu sais, les gens qui disent, Chris, il y a un ostie de menton, je dis oui, mais je ne l'ai pas pogné sur le menton. Je l'ai pogné ici, puis le reste, le pied est venu claquer sur le bord de la tête. Mais le pied consiste maximum 20% de la puissance générée avec le heel kick. Fait qu'il était très évasif, il était quand même bon à pas se faire toucher par des shots importantes. Par contre, le ground and pound dans la demi-garde, j'ai bien aimé. On a vu que quand que j'ai fait le petit flying step, il a avancé en même temps, je suis tombé dans la garde. La garde, okay, j'ai lancé 2, 3 coups, j'ai comme fait, OK, il n'est pas actif. Parce que si tu essaies de te relever, souvent tu as besoin de pause. Si tu poses, tu vas t'exposer le menton. Fait que la première chose que j'ai faite, j'ai regardé sa tête, j'ai tenu sa tête, j'ai dit, OK, il reste proche. Fait que d'un, il élimine les pertes de puissance. Puis il n'a pas l'air d'être en train de frapper. J'ai dit, OK, j'ai tassé sa tête d'un bord, j'ai feinté le Kimura, il a mordu à l'hameçon, j'ai été chercher le menton, puis j'ai tout de suite tap out. C'est une façon de me relever que j'aime beaucoup. Puis si tu fonces pour me retenir au sol, je vais te popper la guillotine. Puis il a senti le danger, il a backé, j'ai réussi à me relever, puis on a re-engaged. faire. Puis le ground and pound de la demi-garde au deuxième round, il était bien. Parce que quand tu as un mount, le gars peut donner son dos puis scramble, un peu comme un alligator, un crocodile. Fait que la demi-garde, c'est une des meilleures positions. Georges St-Pierre avait son meilleur ground and pound de la garde ou de la demi-garde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous pouvez l'étudier, vous allez le remarquer. Parce que la demi-garde, tu ne peux pas donner ton dos. La seule façon que tu peux, c'est en traversant ton knee shield complet, mais il n'y a personne qui est assez stupide pour faire ça parce que là, tu es quand même t'es comme dans une demi-garde inversée, puis t'es, t'as le, c'est, ça se fait pas, ça se fait très mal. Puis sinon, l'autre façon, c'est de retirer ton genou. Mais si tu retires ton genou, tu as besoin des appuis. Si tu utilises tes appuis, il n'y a rien qui protège ton menton. Fait qu'il y a comme une grosse science derrière le ground and pound de la demi-garde que j'ai réussi à utiliser. Pas au niveau que je l'aurais espéré, mais que j'ai remarqué que je m'améliore dans plusieurs facettes. On m'a vu sur mon dos, je me suis relevé. On m'a vu faire du beau ground and pound, la demi-garde. On m'a vu passer la garde. On m'a vu faire plein de belles manœuvres dans ce combat-là. Fait que c'est pour ça que j'étais très content de la performance en général.
Ah, définitivement, man. Puis c'est vrai ce que tu dis, parce que moi je te cacherai pas. En dessous, en joue, la demi-garde, c'est ma position. Là. C'est de là que j'ai la majorité de mes meilleurs sweeps. Je fais beaucoup de deep half guard. T'sais. J'aime beaucoup pogner l'underhook qui revenait sous mes genoux et essayer un peu de lutter de même. Là, que...
Yes.
Pis... Mais c'est vrai qu'en MMA, man, c'est tellement une position.
Mais pense à tous les sweeps. Pense à toutes les sweeps et à toutes tes attaques.
Ta tête est tout le temps là. Ta tête est tout le temps là. La half guard, la deep half, si tu tiens sa jambe, ta tête est là pour manger toutes les shots
Exactement.
Du monde.
Exactement.
Même en juste, tu fais le calf, tu vas te faire Kimura, tu vas te faire Inverted Triangle de là, tu peux te faire plein d'affaires de là.
Exact.
Quand tu rajoutes les frappes, c'est juste pas une position que tu veux. Là.
Exact.
C'est ça, quand j'envoie le tata essayer de la DPAF en MMA, s'il réussit, genre, je suis genre, oh, jette! Ben, je suis tout le temps, quelle mauvaise idée va pas là, man.
Absolument.
T'es pas Damien de Maya, t'as
C'est quoi les frappes les plus significatives qu'on peut lancer de la demi-garde? C'est des Hammer Fist. La Hammer Fist, c'est la chose qui régénère. Écoute, allez écouter Sports Science, c'est l'affaire qu'on peut générer le plus de force avec. Descendre son poing vers le bas, oui, mais tu n'as pas assez de kinetic energy, tu as juste tes hips qui tournent. Tandis que si tu descends et tu utilises le hammer fist, beaucoup plus fort, puis il y a beaucoup plus de snap. Puis le snap fait que ton cerveau il se promène, c'est là que tu peux essayer de déconnecter l'adversaire avec ce type de frappe-là. Tandis que pour ce qui est des coups de poing circulaires que tu vas descendre, tu as besoin de descendre ton poids. La plupart de ton poids, il est où? Il est sur tes genoux parce que tu veux garder la demi-garde. Tu ne veux pas tomber avec le poing. Fait. C'est là que c'est très important d'avoir une bonne game avec les hammer fists. Puis si le gars s'en vient chercher un deep underhook, c'est là que tu commences à jouer avec tes guillotines. Parce qu'il se met proche de toi, tu ne vas pas commencer à frapper comme ça. Fait que boum, tu wraps le neck. Puis s'il va chercher son deux, tu dois te battre pour le underhook. Puis tout. Fait que c'est Fabio, il a une demi-garde incroyable. Même quand il était à TKO, puis c'est quelque chose qu'il a étudié beaucoup et qu'il a partagé avec son élève Georges, qu'on peut le voir dans ses combats. Tu sais, Georges, il avait une belle demi-garde. Tu sais, Georges, il popait tout le temps des Kimura en plus de la demi-garde. Des astis de Kimura. Georges avait une. Je pense que c'était Jay Aaron qui avait fini avec. C'était-tu Jay Aaron?
C'est pas Matthews qui a comme transformé le Kimura en bar.
En bar cas, après, là.
Ouais.
Mais c'est ça, tu sais, ça se faisait la plupart du temps de la demi-garde. Parce que puis c'est quelque chose que je dwell beaucoup dedans parce que mon dernier combat, j'ai droppé Erosa, puis je l'ai laissé se relever, mais il dit non, non, ça c'est non. Il dit au pire, Charles, tu vas finir un round par-dessus, puis il dit même si toi, ça te fait pas ton bonheur parce que tu es un stand and bang guy, lui, s'il arrive à se relever puis à te repousser, il vient de prendre énormément d'énergie.
Ouais, tu lui as donné tellement confiance en son sol à lui, puis c'est pour ça qu'il t'a timé avec son move. Tu sais, Erosa, on s'entend, c'est qu'il t'a laissé te relever pour checker comment tu te relevais contre la cage. Il a fait « Oh, drette ça, ce que je voulais y faire un Darce anyway. » Ouais. Fait qu'il t'a ramené au sol, il t'a laissé faire la même affaire, puis il t'a timé avec son Darce, le gros.
Mais il y avait des longs bras aussi. Il y avait des longs bras que je ne m'attendais pas à ça.
Moi, parce c'est l'affaire que j'avais dit avant ce combat-là. J'ai dit « C'est un combat que Charles peut gagner. Il faut qu'il fasse attention à son Darce. Il y a des estis de longs cannes, ce double-là, man. » Puis...
Mais Rosa, par contre, ce qu'il faut lui donner, c'est son expérience. Puis, tu sais, le monde me diront ce qu'ils veulent. Là. Il était solide en tabarnak. Entre lui et Choi, c'est les deux personnes que je serais comme pas, j'aurais peur de me pogner avec, je leur ferais n'importe quand. Mais tu sais, tu me demanderais de tous tes adversaires sur une liste lesquels tu voudrais le moins te pogner avec. Et Rosa, man, il est savage en tabarnak parce que je l'ai pogné avec des hosties de shots. que dans ses autres vidéos, même quand il faisait la cote à 145, il était plus susceptible de se faire wobble puis knockout. Mais là, il a dit qu'il, je pense qu'il veut même plus redescendre à 145, là, ou quelque chose de même. Not that I care, but je l'ai pogné avec des hosties de shots. Puis le gars, man, il était là, il les prenait. J'ai pogné avec des gros body shots, des gros kicks, des kicks dans les jambes. Puis il était juste là, man, pour se battre. C'était un OG. Là. De toutes les gens que j'ai combattus, là, c'était un des gars les plus mancalis. Je suis là pour te geler. Puis, mais tout. Ben oui, anyway, je n'élaborerai pas sur les excuses, mais mentalement, j'étais vraiment pas fort avant ce combat-là. J'étais très fatigué. Le fait que le combat ait été repoussé à plusieurs reprises, ça a été un camp de 6 mois. Un camp de 6 mois sur le corps, sur la tête, j'avais même pas envie d'être là. Quand ils m'ont annoncé, finalement, c'est lui, non, c'était lui, il m'avait donné genre trois noms. Trois noms. Après, c'est dit, OK, finalement, c'est Erosa. J'étais comme, OK, je m'en crisse, c'est juste me le donner. Là, puis. Mais avec une bonne préparation, c'est sûr que ça aurait été un combat différent. Mais quand tu es expérimenté, comme lui, quand tu as le double de mon expérience, le double de mes combats, tu sais comment t'adapter plus rapidement. Quelqu'un de plus expérimenté sait comment s'adapter. Moi, j'étais juste fougueux, let's go, fuck it, all out. Fait que là, c'est ça. C'était très différent. C'était un combat difficile avec Erosa. Mais je peux pas laisser n'importe qui dire. Erosa, c'est un facile. De un à UFC. Check Darren Till, il en a parlé récemment. Il y en a qui disent, ah, oh, avant de se battre avec Cerrone, il se battait contre des nobody. Hey, le gros, si le gars s'est rendu à UFC, là, c'est pas un nobody. C'est un Christ de dangereux à sa manière. Fait qu'on peut pas dire c'est des nobody parce que tu les as pas vus sur un pay-per-view de Conor. C'est absurde de dire une affaire de même. N'importe qui se bat contre un gars calibre UFC comprendrait. Puis, je tiens mon point qu'à part CM Punk, des nobody, il n'y en a pas à l'UFC. Les gars sont là pour une astuce de raison. Fait qu'on ne peut pas les discréditer. Puis, je voyais des gens discréditer Erosa. Puis, j'étais comme, man, le gars, il est là, ça fait longtemps. Puis, le gars, c'est un savage. Tu sais, il y avait un, je pense, four fight win streak. Il a perdu contre Sung Woo Choi. Puis, après ça, il s'est battu contre moi. Mais, tu sais, un four fight win streak à UFC, là, c'est pas facile. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Fait que. En tout cas, j'ai tourné la page, j'ai appris énormément de ce combat-là. Puis, non, c'est ça. On est parti de quand je drop quelqu'un, il faut que je mette de la pression tout de suite. Puis, c'est ça qu'on a mis sur ce camp-là. Aussitôt que je peux faire mal, je continue. Puis, au pire, ça lui prendra de l'énergie à se relever. Puis, après ça, quand il va être debout, il va se dire, tabarnak, j'ai plus de jus parce qu'il a fallu que je me débatte de cette espèce de mongol de joint-là qui me lançait des hammer fists. Fait que quelque chose à travailler, c'est ça. C'est le ground and pound de la demi-garde.
For sure, man. Mais tu sais, pour revenir brièvement à Erosa, tu sais, moi, je te le cacherai pas. C'est comme si tu regardes tes défaites, c'est le moins bon combattant qui t'a battu, selon moi. Mais ce gars-là, c'est un esti de vétéran. Puis on le voit, comme tu le dis, dans ce dude-là, il revenait à l'UFC 2 fois, puis 3 fois, puis quand ça marchait pas, puis il se faisait allumer, puis il a jamais lâché. Puis là, il rasait à 34 pro fights. Puis il a réussi à trouver une manière d'un peu travailler. T'sais, puis je pense même pas qu'il y a un mauvais menton, je pense juste que c'est un gars qui se fait cut cold. Si tu regardes la majorité de ses knockouts, c'est tôt dans les combats. T'sais, c'est un gars que tu peux le cut cold puis le finir en genre 1 minute et demie. Mais si tu laisses ce gars-là se mettre dans son groove puis se battre avec toi, c'est un asti de vétéran puis il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas vu, cet asti-là. T'sais, il a tout vu dans la cage. Là. Il a été dans la merde. Il s'est fait soumettre. Il s'est fait knocker. Il a knocké du monde. Il a soumis du monde. Il s'est battu dans l'UFC. Il s'est battu dans des astis de show régionales devant genre 2-3 personnes bien chaudes en Arkansas. Genre. T'sais, il a tout vu, cet asti-là. Puis il y a tellement une crop en ce moment dans ta division de d'autres de même. T'sais, Erosa, Derrick Minner, le colis de d'autres qui a choqué. TJ Laramie, que j'étais genre, je peux pas croire que ce gars-là a gagné un combat dans l'UFC. Puis, genre, 2 fights après, il est là, puis il bat Charles Rosa. Juste parce que c'est un esti de vétéran que si moindrement tu laques, il va t'avoir le câlisse. Puis, c'est ça qui est arrivé, tu sais, ce
Exactement.
combat-là contre Rosa. C'est probablement, tu sais, le combat impliquant un Canadien qui a été le plus excitant cette année. Là, on s'entend, c'est un esti de back and forth brawl. C'était cave, mon gars. Les deux, vous aviez vos moments. C'est un gars que je pense que tu peux le battre demain matin, là. Mais ce soir-là, il t'a juste trappé avec un de ses moves. Puis toi, comme tu dis, t'es le jeune Jourdain fougueux, esti, qui veut péter la gueule à tout le monde. Puis, tu sais, qui a pas trop de care in the world par rapport à ça.
Mais de lui... où on est parti, du choke, c'est très rare. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis relevé contre la cage. J'ai fait ce que 90% of the guys would have done. Je voulais me relever. J'ai mis mon appui. J'ai commencé à me lever. J'ai senti une pression en haut. J'ai fait « OK, c'est pas grave. » Je suis arrivé pour aller checker mon neck. Puis lui, il a pas roulé avec. Il me « pull » dedans.
Ouais, t'as amené sur...
Exactement, il me pull. Souvent, tu sais, les gars vont sprawl, après ça, ils vont se mettre à spinner comme un alligator. Tu sais, il y a plusieurs formules pour le faire. Puis lui, il est arrivé avec une formule que je ne m'attendais vraiment pas. Puis c'était juste chiant, man. J'étais là, ben voyons donc, man. Comment une petite crise d'erreur peut faire mal de même? Puis après ça, je l'ai pris sur le menton, puis je suis là. Ça fait partie de la vie, esti, tu vas-tu te plaindre toute ta vie? C'est sûr qu'avec un cam, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Puis, tu sais, lui, après, il nous a annoncé que ça faisait un mois qu'il savait qu'il était remplaçant, mais il a dit, oh, genre, on ne sait pas. Mais lui, ça faisait un mois qu'il me studiait, le tabarnak. Là. Quand il me dit ça, après le combat, il dit, ouais, ça faisait un mois qu'on studiait. Puis là, mes coachs ont dit, ouais, nanana. Puis, il me disait ça, puis je me roulais à la langue. J'étais comme Chris. Puis, moi, l'UFC, il me disait, OK, c'est pas lui, c'est lui, c'est lui. Tu sais, ça me tentait pas de studier des gars que je connaissais pas un mois d'avance. Fait que là, il dit, ah, c'est avec lui. Là, ça a peut-être été Alex Caceres. Là, moi, j'étais tout content. Puis là, non, ça va être lui. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, finalement, il dit, ah, finalement, Erosa, c'est le seul qui peut. Je dis, OK. Mais il veut juste à 145. À 150. Je dis, ah, Chris. OK. Tu sais, j'avais comme pas le choix. Je voulais me battre. Fait que là, lui, ça faisait un mois qu'il se préparait contre moi, contre mon style. À chaque fois que je changeais de stance, il y avait tout de suite une réponse. J'étais là, ben, tabarnak, comment ça, c'est ça? Puis c'est pour ça qu'après le combat, j'ai parlé. J'ai dit, comment ça, t'avais autant de réponses? J'ai dit, t'es vraiment bien adapté. Il dit, non, il dit, ça fait un mois que je lâche pas tes tapes. J'étais là, ta gueule, moi, ça fait 6 jours que je le sais que je me bats contre toi, là. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment laid de UFC. Ben, pas UFC, mais tu sais, que lui, il ait dit, ah, je sais pas, nanana, je vais vous dire. Un moment donné, si ça me tente, si je peux. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment whack. Fait que je suis sûr qu'avec une bonne préparation, ça pourrait être différent. Mais bon, c'est pas ça qui s'en vient en 2022. Ce qui s'en vient en 2022, ça va être une signature de contrat avec un combat contre Cobb. C'est ça qu'on va pousser à la conférence de presse. Il a dit que ça l'intéressait. Il a dit que c'est ce qu'il voulait. Fait que c'est ça qu'on va travailler. Ça va être ça l'avenir. Pas besoin de trop de dwell dans le passé, mais c'est sûr que celle-là me fait chier. Mais... ça va le tapilule, tu t'améliores. Vous avez vu un Charles très, très, très amélioré entre ces deux combats-là. Tu sais, les gens ils ont dit, ouais, mais après une défaite, tu ne veux pas prendre une petite année.
Mais pourquoi qu'il ne va pas s'entraîner au Tristar? Est-ce qu'il ne sera jamais champion s'il ne va pas s'entraîner au Tristar?
OK, check ça. Okay. Je vais te nommer les 5 champions du monde qui ont été au Tristar. OK? GSP, Georges Saint-Pierre, Rush, le petit gars de Saint-Isidore. Puis les gars qui ont fait un film, là, qui a un tatou chinois sur le chest. Là. Ça, c'est les 5 champions du monde qui ont été à Tristar, OK? Not that I'm talking shit about them. Ils ont un excellent team. Par contre, de se dire que parce que ce gars-là a été là, tout le monde va y aller, c'est différent. Tu me parles de Greg Jackson. Est-ce qu'ils ont eu 18 champions UFC, si c'est pas plus, là? Tu sais, il y a une différence entre un, puis beaucoup, puis gars. Anyway, tous les gyms sont différents. Regarde, je suis rendu sur le truc UFC. J'étais numéro 25 aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cool. Mais tu sais, je suis devenu numéro 25 avec Cyril, avec Fabio, puis David Zimmerman, puis mon team. C'est pas incroyable, mais c'est bon pour nous. Fait qu'on va continuer de travailler dans cette direction-là.
Ouais, mais anyway, gros, tu connais-tu pas ça si t'es genre, ah, oh, il s'entraîne pas au Tristar, nanana. Puis gros, t'as genre Fabio Holanda dans ton coin, là.
T'sais? Mais le monde dit, c'est pas oui, ça, méchamment. Le non, monde, je le sais, mais... ils veulent juste vouloir t'aider, mais comme je dis, tout le monde sait ce qui est bien pour les autres, personne ne sait ce qui est bien pour eux. Quand c'est, moi, je pourrais te dire des affaires, ouais, mais toi, ta vie s'améliorerait si tu ferais ça. Ah non, non, non. Moi, je dis, bon, ben, c'est ça. Dis-moi pas ce qui pourrait m'améliorer, puis je te dirai pas qu'est-ce que tu... En fait, je dis rien à personne, je me mêle tout le temps de mes affaires, mais c'est sûr qu'en est devenant une personnalité publique avec une notoriété, les gens veulent s'impliquer dans tes choses, ce qui est correct. C'est pas méchant. Fait que si tu regardes la volonté de la personne, c'est t'aider, mais la personne doit comprendre qu'elle n'a pas les outils pour m'aider. Therefore, je ne peux pas passer énormément de temps sur le commentaire qu'elle me dit. Mais c'est la vie, c'est correct.
Ouais, c'est ça. Puis je pense surtout que sais, ce qui vient, parce que, gros, je te cacherai pas que quand Barrio était sur trois, là, sans consécutif, c'était la même crise d'affaires, là. Tu sais, le monde, Barrio ci, Barrio ça, puis là, Barrio, il a pété trois gars tout de suite. Fait que là,
Mais
Barrio, il est
Barrio,
bon à
c'est
Star, genre.
différent. Barrio, c'est différent parce qu'il y avait, je pense, des conflits internes dans son camp. Tu as changé de batterie, Faber.
Moi, j'ai pas le choix, il va
Change
falloir
de
que je mette la
batterie,
cam ici.
Faber.
Bon.
Aucun problème.
Fait
Beau
que,
comme un
ouais, non,
cœur.
c'est ça.
Ça, ouais. Barrio, c'est différent parce que lui, je pense qu'il y avait des conflits internes avec, en tout cas, peu importe, j'élaborerai pas là-dessus, c'est ses choses personnelles. Fait que, tu sais, il a pris la décision d'aller en Floride. Puis force à lui de l'avoir fait. Puis on se parle souvent, moi, puis lui. Puis il n'y a pas beaucoup de gens combattants that I care about. Pas que je don't care about les gens, mais je vais surtout mettre de l'énergie sur les gens avec qui j'ai eu des bonnes interactions. Puis Marc-André en fait partie. Puis je suis vraiment genuinely content de voir la vie qui est en train de se bâtir. Il voudrait peut-être se faire un food truck. Il m'expliquait qu'il était cuisinier avant, puis il tripait. Puis là, je suis comme, wow, man. Le gars, il a décidé de partir avec sa blonde, sa roulotte, son chien. Puis, tu sais, il vit quelque chose qu'il aime. Il veut se faire un food truck. Puis tout, c'est le fun de voir que quelqu'un a enlevé l'illusion du bonheur. L'illusion du bonheur qui fait le plus de cash, puis va dans le sud, nanana. Non, non, lui, il a son bonheur, puis il court après. Puis c'est tellement hâte de voir quelqu'un faire ça. Fait que Barrio, oui, il a changé de camp, mais il avait ses raisons. Est-ce que je pense que ça peut aider du monde? Oui. Est-ce que je pense que ça m'aiderait moi? Non. Moi, je pense que ça fait longtemps que j'essaie de travailler pour avoir le meilleur camp possible. Puis là, je suis en train de formuler quelque chose qui a de l'allure. Puis tu sais, Barrio, il n'est pas arrivé là. Puis OK, bang, je fais un fight. Non, non, il s'est apprivoisé. Tu sais, là, il est tout le temps avec Hanson Lang ou quelque chose de même, là, le God One. Puis tu sais, les gars, ils ont créé esti, à travers la guerre une relation. Puis tout, c'est fou à voir. Raphaël Fiziev aussi est là-bas. Ils ont créé quelque chose. Fait que c'est ça. Marc-André avait ses raisons d'y aller, puis force à lui de l'avoir fait.
Oh, fuck yeah, man. Puis, tu sais, gros, Barrio, man, c'est probablement une des meilleures personnes que je connais sur toute la Terre. Là. Ce gars-là, il n'y a aucun genre malice, tu sais, dans son cœur. Ce gars-là, c'est genuinely là, une des meilleures personnes qui existent. Fait que, Chris, c'est sûr, je vais être content pour son succès tout le temps. Puis, tu sais, je suis content, comme tu dis, non seulement que tu sais, ça aille bien sa carrière dans l'UFC, qu'il ramasse des victoires, toutes ces affaires-là, mais tu sais, au final, je suis content qu'il soit content et tout, ce gars-là. Quand il était à Gatineau, moi, Papa Jou, Julien Leblanc, c'est un de mes bons chums. Tu sais, on chillait, le gros, moi, puis Marc, puis Jou, puis je suis juste content qu'un gars que j'apprécie de même dans la vie ait réussi à comme aller vivre son rêve. Le gros, c'est la nouvelle époque, là. C'était Mario Barrio, à cette heure, c'est rendu Florida Marc, man. Puis le gars, il vit le fucking rêve, man. Puis je pense que tout le monde devrait être content pour lui, mais tu sais, c'est. Je sais pas trop comment expliquer ça. Je pense que c'est un peu de même partout, mais je pense que c'est pire un peu dans notre domaine parce que, tu sais, on a eu les shows TKO, on a eu toutes ces affaires-là. Puis si t'es un partisan hardcore qui allait au show TKO, tu sais, pour voir les gars locaux puis tout, ben, t'as déjà parlé à Charles Jourdain, là. Tu l'as croisé là-bas dans le crowd, puis tu lui as dit yo, puis Charles, c'est un gars fucking sociable, fait qu'il t'a répondu, puis là, t'as jasé un peu avec. Mais ça, cet accès-là qu'on n'a pas auprès des athlètes sportifs populaires. Tu sais, Big, il n'y a personne là, qui va à la pratique des Canadiens puis qui chill avec Carey Price après la pratique, là. Ça arrive pas, ces affaires-là. Mais
Mais c'est
nous
sûr
autres,
que si tu arrives du jour au lendemain, tu signes des contrats de 10 millions. Ah, OK, sorry.
OK, ouais, je pense que tu t'étais muté, ça fait exprès, là, je
Non,
pense.
j'ai reçu un appel.
OK, ouais.
C'est Stéphane, fait que c'est peut-être, hey, Charlot, on a le fight de Cobb.
Let's go. Ah
OK.
ouais, Stéphane, esti.
Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est ça, tu donnes des millions à quelqu'un, puis tout, puis. Du jour au lendemain, esti, il est plus hot que tout le monde. C'est correct de fermer son cercle parce qu'il y a des gens qui vont s'approcher de toi pour les mauvaises raisons. Mais si, genuinely, dans tout, tu penses que tu es meilleur que les autres, t'es un piece of shit, à mon avis, là. Tu sais que la première chose que j'ai faite après le combat, l'UFC ont voulu le filmer, puis ils pensaient jamais que ça a été mon idée d'avoir du cloud. C'est juste que quand j'ai gagné, j'ai vu un jeune, quand je me suis mis à crier, j'avais la face pleine de sang, j'ai vu un jeune qui était de même avec son père, puis il criait avec nous autres, puis j'étais comme. Fuck man, je vais y aller donner mes gants parce qu'il a l'air d'avoir vécu un esti de bon moment. Puis je veux lui montrer, je vais démontrer que tu sais, merci même d'avoir vécu ça avec moi. Puis je suis allé me donner mes évaluations, vous le suivre puis le filmer. Ce qui a été cool, mais je ne faisais absolument pas ça pour du cloud. Je suis quelqu'un d'assez généreux quand ça vient avec des gants, le TKO, là, je pense qu'il m'en reste deux paires. J'en donnais à plein de monde, des posters, des shakers. Name it, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner parce que les fans nous en donnent beaucoup en venant, en tripant avec nous, en ayant des bonnes interactions avec nous autres. Puis je ne serais jamais plus hot que quelqu'un. Je serais jamais Charles Jourdain du UFC trop hot pour parler avec. N'importe qui. C'est sûr que si t'es avant un fight puis tout, puis il faut que tu aies signé 50 autographes, c'est sûr que c'est un fight. C'est la vie. Mais c'est important de rester terre à terre puis de multiplier les bonnes interactions qu'on a avec les gens, même si tu as le risque d'en avoir une mauvaise. J'ai déjà eu des mauvaises interactions avec des gens. Puis who cares at the end of the day, là, t'sais. T'sais, c'est pas la fin du monde. J'en ai eu qui m'ont dit, toi, là, si. T'es l'air plus gros à TV. Non, non, tu sais, il y a plein de monde qui dit des niaiseries, mais pas grave, c'est drôle. Ou tu sais, hey, il me semble que tu devrais aller t'entraîner avec GPS là, à Montréal. Je suis comme, ouais, je vais y aller. C'est correct. C'est, comme je dis, c'est pas méchant. Fait que t'as une interaction, puis la vie continue.
Non, c'est clair, mais j'ai juste l'impression que le fait que ces gens-là, ils ont eu comme cette proximité-là avec vous, puis ils vous ont déjà parlé, ils ont comme. T'sais, le monde chiale sur le hockey pareil, mais t'sais, ils se permettent un peu plus. Ah, moi, j'ai déjà parlé à Jourdain, tu devrais aller s'entraîner au TriStar, Lucas. Moi, il dit, mais que je la recroise, le jeune,
C'est
t'sais.
correct.
Mais,
Ils ont le
ça
droit de
pour
le
dire.
dire.
Bref, t'sais, tu sais quoi l'affaire que je suis le plus content par rapport à ton combat?
Vas-y.
T'as gagné une décision, man.
Ah!
Parce que,
Ouais,
t'sais,
c'est
le
ma
gros.
première. Mais, vite, parenthèse, comme ça, un gars qui est couché à terre de même puis qui regarde le ref, t'sais, il en voulait plus. Fait que
Non, non, non,
j'ai.
c'était fini, là.
T'sais,
C'était
des fois,
fini,
c'est une
non, là.
décision en sachant de Chris, ça aurait pu être moi ou toi. Mais je le savais, il le savait, je le savais. We knew. Même
Ouais, mais.
fucking Philly, man, il était content que ce soit fini le tabarnak parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de hand à mon gas tank. Fait que, tu sais, en dedans de moi, elle avait fait mal celle-là parce que je me disais, mon hostie, t'étais vraiment content qu'il n'y ait pas un round de plus parce qu'il commençait à fader. En tout cas, c'est pas grave, mais vas-y, continue ton point.
Ben, gros, c'est juste que, tu sais, ta réputation est un peu faite, là, Charles, un esti d'action fighter, nanana, mais tu sais, je le sais que c'est tout ton aspiration, c'est pas, oh, je vais arriver dans l'UFC, je vais accumuler le plus de brain damage possible, puis de bonus, puis à un moment donné, un moment donné, j'aurai jamais vraiment été dans les rankings, ni rien, tu sais, je sais qu'il y a personne qui fait ça pour ça. Puis, il y a des gars, tu sais, comme Alexander Volkanovski, honnêtement, si ce gars-là, c'était vraiment possible de le finir, Ortega l'aurait fait deux fois. Fait que des fois, c'est hot la stat, là. Ah, oh, check ça, Jourdain, 100% finishing rate, nanana. Mais c'est comme, des fois, il faut juste que tu gagnes un esti de combat par décision. Des fois, c'est juste ça qu'il faut, parce que c'est pas tout le monde que tu peux finir. Même si t'es le meilleur des finishers au monde, c'est pas tout le monde que tu vas être capable de finir.
Mais
Puis le fait d'être
ça prend de la
capable,
maturité.
c'est ça,
Ça
puis le
prend de
fait
la
d'être
maturité.
capable d'aller, tu sais, comme tu dis, à la fin de ce combat-là, oui, c'est une décision, mais il n'y a personne, t'sais, qui était stressé. À la fin du premier round, je ne suis même pas sûr que tu l'as gagné. Puis à la fin du premier round, pendant le live, tout le monde se disait, pense que c'est dans la poche. Ce fight-là, il l'a déjà figure out. Puis c'est comme, ça ira pas bien les deux
Mais
autres rounds. On le sait comment Charles Leopard des deux autres rounds. Puis c'est de ça qui est
mmh.
arrivé. Tu l'as dit suite au deuxième. Au troisième, il était revenu un peu, mais c'est fait Spartan Kick à la fin. Fait que, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'étais
Devenu un
le plus
10-5.
content. Ouais, c'est ça, tout le long du live, j'étais genre gros, j'espère, j'ai hâte que Charles gagne une décision parce que s'il aspire à devenir justement un combattant de l'élite un moment donné, oui, c'est hâte de faire des fights super excitants, oui, c'est hâte de finir
Ouais.
tout le monde, mais il y a du monde que tu finiras pas. Puis si ce soir-là, tu n'es pas capable de le finir, si ça veut dire que tu perds automatiquement une décision, c'est de la merde pour toi. Fait que c'est hâte de voir que tu as évolué au point de je suis capable de gagner par décision, je suis capable de gagner par décision de façon fucking
Ouais.
spectaculaire quand même. Tu
Pour la
sais?
première fois de ma vie, j'ai regardé le clock quand j'avais le head control à la fin du troisième round. Puis je savais qu'il cognait solide, même s'il n'y a pas énormément de victoires par KO, il cogne. Ben, il y en a quand même sept, je pense, au total. Mais il cogne dur. Fait que quand j'avais le head control, je l'ai gardé contre la cage. Puis là, j'étais en train de menacer le choke. C'est pour ça qu'il ne mettait pas sa main à terre. Parce que s'il mettait juste une main, moi je partais avec son cou, c'était fini. Fait que c'est pour ça qu'il était haut. Fait que je me suis mis à lancer des genoux, mais là, j'ai regardé le timer d'en haut de même, justement. OK, il reste 45 secondes. garde-le là, puis continue de lancer des genoux, puis mec, il y a 10-15, lance une flurry. C'était ça le plan. Puis d'habitude, moi, j'aurais fait fuck it, ah, ah, tu sais, des fois, fuck, je défendais un takedown contre Damien Lapillus, il était en boule, puis je le lâchais, puis je me mettais à le kicker, tu sais, je lâchais littéralement une soumission ou quelque chose pour me lever, puis commencer à stomp kick les gars, tu sais, c'était juste la.
Contre généreux, tabarnak.
Je me suis levé, ouais, je me suis levé, puis je me suis mis à le kicker. Pendant qu'il était en boule. Ah ouais, comme. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'étais fucking même, mais là, je regardais le temps, puis j'ai dit, ok, il reste 40 secondes, il y a encore du knockout power ou un genou qui peut passer. Puis je le gardais, ok, good, dang, dang, puis après ça, j'ai vu, ok, il reste pas longtemps, pa, pa, pa. Puis j'ai doublé au corps, je suis venu avec un uppercut, j'ai lancé mon hook, j'ai vu qu'il y a lean back. Puis j'ai relancé un hook, mais je suis revenu avec le heel kick, mais il l'a bien lu, il a continué de reculer. Puis c'est là que j'ai pogné la main, puis il slash la tête. Puis après ça, il m'a pogné avec un jab, ça m'a fait chier. J'ai crié « Come on! » Puis là, il a ouvert ses mains, j'ai vu le chest, puis je suis rentré avec le push kick. Je pense que le monde a vraiment aimé ça. Je pense que ça a le blow up. Il y a des millions de views sur TikTok, sur YouTube. Ma popularité, elle a vraiment spike là-dessus. Est-ce que ça me monte à la tête? Absolument pas. Est-ce que je trouve ça cool? Oui, d'une certaine façon, parce que ça me pousse à avoir le combat avec Cobb, une bonne notoriété, un gros finish, puis ça m'aide à avoir mes objectifs. Est-ce que je trouve ça cool d'avoir des likes? Est-ce que je trouve ça cool d'avoir des commentaires? C'est correct, c'est cool, mais ça, j'ai jamais combattu pour ça. Ce sne sera jamais mon end goal de devenir une vedette. Mais rien à chier d'être une vedette. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans un octogone puis coller mon poing sur la gueule à quelqu'un. J'ai jamais voulu être un role model, j'ai jamais voulu jouer un rôle, puis je vais tout le temps rester le plus moi-même possible. Puis le plus gros du pourquoi je fais des interviews avec toi, c'est de un, je t'apprécie en tant que personne, puis de deux, si mon histoire peut influencer quelqu'un, tant mieux. C'est ça qui est le plus cool. À la fin de ton journey, tu sais, tu peux bien montrer tes ceintures puis tout, mais on s'en branle, tu sais. Si, mais par contre, si tu as réussi à impacter la vie des gens de manière positive, est-ce que tu as fait ta job en tant qu'humain? C'est ma vision. Mais check, tu sais, j'ai pris le temps de souligner que je t'apprécie en tant que personne. Tu sais, qu'il y avait eu le gala récemment. Tu sais, je connais certains gars sa carte, mais pas tant que ça. Mais tu sais, c'est toi que j'ai appelé après pour dire, man, c'était cool de te voir à ta place. Parce que les gens pensent que c'est juste les fighters, mais il y a des promoteurs, il y a des. Tu sais, tout le monde a leur place dans ce show-là. Puis souvent, je trouvais qu'on oubliait le travail de ces gars-là. Puis c'était important pour moi de souligner que man, c'était le fun de voir d'où t'es parti puis où t'es rendu. Fait que tu sais, ton progrès, c'est pas juste les athlètes, c'est juste n'importe quelqu'un que t'aimes bien, qui avance dans la vie, ça fait plaisir à voir. Puis je te le souligne encore une fois, damn, t'étais sharp! Avec des Jordan puis une chemise.
Fucking light, mon gars. Mais gros, j'apprécie énormément, man. Honnêtement, tu sais, j'étais super content quand tu m'as appelé. On s'en allait justement à Niagara, checker un autre événement, le BTC, le soir même. C'est que Louis devait se battre, là. Finalement, ça n'avait pas marché. Ouais. Mais bref, on s'en allait à cet event-là. Puis j'étais avec Greg puis Carabine, justement. Puis j'étais avec Chris, que c'est cool qu'ils prennent le temps de m'appeler, tu sais, man. C'est vraiment hot. Puis je te renvoie à 100% et tout. D'ailleurs, le compliment, moi, tout, je t'apprécie bien gros comme gars. Puis, tu sais, comme être humain en général, je trouve que tu fais ça. Puis, tu as ton petit côté et tout un peu. Tu sais, genre, c'est pas controversial, là, mais t'es pas quelqu'un qui suit vraiment la société. Tu sais, puis tout. Puis, moi, j'apprécie ça. Le moi, tout, je
t'ai un complotiste.
Ouais, exactement, mais c'est ça. Moi, tout, j'étais genre le petit cave qui, genre, tu me dis, ah, oh, t'as pas le droit de faire ça, puis juste parce que t'essayes de m'empêcher de le faire, je suis genre, hey, man, je vais essayer de le faire, tu sais, je m'en crisse, juste parce que tu veux pas que je le fasse. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, honnêtement, le groupe, tu sais, j'en ai déjà parlé, le monde qui écoute le podcast, sont genre, là, arrête d'en parler, tabarnak, Faber, mais, big. Moi, je suis juste un esti d'autre sur Internet. Puis, tu sais, je sac, puis je dis de la merde, puis je gueule après à Régie assez si qu'ils veulent même pas me voir au show, tu sais. Puis, en tout cas, je suis un gars que je le sais que j'ai une personnalité. Il y a beaucoup de mes amis qui ne m'aimaient pas la première fois qu'ils m'ont rencontré. Là, basically, ils ont genre, toi, tu as une personnalité un peu fucked up, abrasive. Tu fais du bruit des fois, puis on n'est pas sûr. Mais quand tu apprends à me connaître, après, tu te rends compte, je suis un petit bon gars sincère qui aime ça pour vrai. Puis moi, quand je m'excite, c'est pas pour les views, là, je m'excite parce que je suis en tabarnak parce qu'il y a quelqu'un qui vient de crosser un fighter ou XY affaire qui est arrivé. T'sais. Mais. Je te cacherai pas que moi, c'est mon rêve depuis que je suis jeune de faire ça, d'être un commentateur. Puis le fait d'être le gars sur Internet qui sac puis qui est funné un peu, je le sais que ça, ça m'aide pas en termes de crédibilité pour un rôle comme ça, genre. Mm-hmm. Parce que s'il y a pas, tu sais, comme meilleur exemple, Samouraï, Daniel, il m'avait approché au début pour faire les commentaires en français avec Benoît Baudouin et Lévi Labrie. Puis tu sais, gros, honnêtement, je pense qu'RDS était pas vraiment down. À ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'ils ont checké mes affaires. Ils ont dit, ouais, il sac un peu, lui. Puis, tu sais, j'ai des compréhensions. C'est une grosse corporation, Bell Media. Puis, tout. Puis, ils checkent le petit clown sur Internet. Puis, ils ne voient pas le deuxième degré de, ah non, mais ce jeune-là, il est intelligent quand même. Puis, il est capable. Puis, tu sais, gros, moi, ça, c'était ma chance d'arriver là. Puis, de leur prouver que oui, je suis un petit d'autre sur Internet qui sac. Puis, nanana. Mais quand c'est le temps d'être sérieux, d'être professionnel, puis de faire un job comme faut, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en n'importe quelle langue, je vais être là, puis je vais te faire ça comme un pro, puis je suis capable d'être le gars le plus sérieux puis le plus professionnel du monde si j'ai besoin de l'être. C'est juste que c'est pas vraiment moi, tu sais. Je me verrais mal arriver ici puis jouer une game du gars ben fucking sérieux qui, oh non, on prend tout super sérieux. Moi, je suis là tout le temps à rire de tout le monde, niaiser tout le monde. Là. Fait que c'est pas moi d'être ça, mais je suis capable d'être ça quand on en a besoin parce qu'il faut. Puis, genre, pendant que je le faisais avec John Ramdeen, je le savais que ça allait bien, le gros. Je me disais, Chris, man, toute ma vie, j'ai voulu faire ça. Puis, à soir, c'est ma chance. Puis, je suis en train de lui montrer en tabarnak qu'ils ont raison de me donner ma chance. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui tisse bien des affaires sur Stéphane, le gros. Mais Stéphane, c'était le premier qui m'a appelé pour que j'aille d'une conférence de presse TKO poser des questions parce qu'il savait que ça allait être le journal de Montréal et XY qui allait être là. Puis que ces hosties-là, il allait demander une question à Daichka, une question à Jourdain, une question à Barrio, puis une question à Gavrilovitch, puis les autres allaient tous manger de la menthe, tu sais. Fait que c'est à partir de là que Stéphane, il m'a donné ma première chance, que je me disais, OK, il y a de quoi à faire avec ça. Puis là, c'est Daniel qui vient step up puis me donner encore une fois une chance que j'ai jamais eue. Puis c'est pour ça que, tu sais, le monde diront ce qu'ils veulent sur Stéphane. Moi, il faut toujours que je sois reconnaissant à Stéphane pour ça. Puis je vais toujours être reconnaissant à Daniel pour la chance qu'il m'a donnée. Parce qu'au final, je suis juste un esti de clown sur Internet. Puis ces deux dudes-là, ils n'avaient pas dit, hey, viens aux events, esti, couvrez ça. Ou viens commenter mon event, s'il te plaît, le gros. Genre, j'ai beau grinder puis essayer. J'aurais pas été capable tout seul, puis ces deux gars-là, ils m'ont tellement aidé, puis tu sais, j'y remercie, puis d'un autre côté, je suis juste tellement content d'avoir été là, puis tu sais, tu le sais que t'es capable de faire quelque chose, mais tu le sais jamais vraiment jusqu'au moment où tu le fais pour vrai, puis là, je l'ai fait, puis je le sais que je suis bon, puis je sais que je suis capable, puis le lendemain, c'est toi qui m'appelles, t'as John Ramdeen qui dit à Dan, oh, il y a un futur là-dedans, tu sais, j'ai que des commentaires positifs, toute ma famille capote parce qu'ils m'ont vu à TV, tu sais, c'est comme, c'est hot, man, puis on ne se le cachera pas les dernières années. Ça a été rough, là, le gros. Moi, au début de la pandémie, là, quand tout le monde parlait rien que de la COVID sur Facebook, le gros, j'avais une page de 10 000 personnes, puis Facebook ne montrait même plus mes posts à 500 personnes. Là. Parce que l'algorithme était tellement fucked up, parce que tout le monde parlait de la COVID, cherchait des affaires sur la COVID, partageait des affaires sur la COVID. Fait que le MMA, c'était plus dans l'algorithme. Là. Fait que là, moi, un moment donné, gros, j'avais même plus genre 10 likes sur mes publications. J'étais genre, gros, ma page est en train de mourir devant mes yeux. Là. Puis gros, on a réussi à ramener ça. Puis,
c'est la gros, consistance. La il faut
exactement, être consistant c'est ça.
Quand on poste. Check, moi, en ce moment, là, je pourrais poster quelque chose sur Instagram sans avoir 2000. C'est l'algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien correct. Tu es le héros d'un jour, puis le lendemain, tout le monde revient à leur sens. C'est pour ça que je ne suis pas parti en fou, moi, après ce combat-là. Là. C'est cool, puis tout, mais ça. C'est pas ça qui va déterminer, man, si j'ai un sourire d'en face. Le but, c'est d'être le plus consistant. Check, toi, t'es revenu. T'as continué d'étudier tous les autres gars-là. T'as continué d'étudier les fighters. T'as continué de faire ta job. Faut juste être consistant dans la vie. On veut toute la grosse partie du morceau à chaque soir, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un moment où tu shines, il faut que tu grindes dans le noir. Faut que quand les lumières sont fermées, tu sois celui, man, qui en fait plus que les autres. Sinon, quand les lumières vont s'allumer, tu seras pas plus que les autres si t'en as pas fait plus. Fait que, like, pas like, consistance, puis quand tu vas être sous le collimateur ou sous les lumières, tu vas savoir quoi faire. C'est ma vision.
Exactement, t'as 100% raison. Puis, tu sais, gros, justement, le nombre de temps que j'ai passé à me dire, ah, ben là, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais. Puis, tu sais, oui, j'ai changé des affaires, mais j'ai changé des affaires parce que je me disais, oh, ça serait plus intéressant que ça soit comme ça, que ça soit comme ça. Puis, tu sais, on continue toujours à améliorer la patente, mais, tu sais, c'est juste le fun qu'une année se conclue de même. Tu sais, gros, dans le même mois, j'anime un gala pour la première fois, j'ai mon premier commanditaire sur la page, Asti. Le monde utilise le code promo pour s'acheter des rase-couilles, puis tout, c'est malade, le gros. Même gros, c'est, en plus, j'ouvre le UFC, puis Manscaped, t'es genre partout, le gros, tu sais, dans l'octogone,
Ouais,
tout. Puis, genre, gros, cette
c'est un
compagnie-là,
gros sponsor.
ils m'ont écrit à moi, là, tu sais, pour me commanditer, man. Puis, je sais même pas comment c'est arrivé, mais c'est juste le fun de win, si un peu, man, après tout ce temps-là. Puis, comme je te l'ai dit à chaque fois, man, ça serait pas possible sans toi, sans Marc, man, parce que veux, veux pas. Là, t'as Johan qui arrive, t'as, tu sais, d'autres Canadiens, genre Jasmine, puis tout en Ontario qui arrivent, mais c'est comme. Les shows locales, oui, ça attire des yeux, c'est sa page, ça amène des nouveaux gens, mais il n'y a pas genre un moment genre plus excitant dans ce que je fais que genre quand Jourdain se bat ou quand Barrios se bat, puis que là, qu'on part un live, puis qu'on est genre 60 coqs sur le live à tout parler ensemble, puis à tout réagir en direct à notre boy Jourdain, man, qui est en train de faire des Air Murphys, puis des Spartan Kicks, puis, tu
Mais
sais,
c'est quand la
gros.
dernière fois que je t'avais appelé, je t'ai embarqué, oui, c'était au combat Barrio, je t'avais appelé, pas celui qu'on s'est battu sur la même carte, l'autre d'avant, puis je t'avais appelé, j'ai dit, OK, comment ça se passe, puis tout, parce que je sais que tu es là. Je savais que tu étais là, tu étais en train de le checker, puis tout, puis les gens le savent, mon gars. Ils savent que Chris, s'il y a quelque chose, man, tu vas sur Facebook, et puis MMA Talk, man, puis tu vas avoir un bon temps. Puis ça a été fait par justement, tantôt tu parlais de je suis un gars qui sac sur Internet, mais toute ta personnalité, puis les gens vont aimer ou ils vont pas aimer. Mais au moins, ils vont pas te sentir que tu es fake. Parce que quand tu es fake, t'as même pas de gens qui t'aiment. Puis t'as même pas des gens qui t'haïssent, t'as juste du monde qui veulent pas être à côté de toi. Fait que non, c'est ça, on le sait. On le sait quand on a besoin de savoir quelque chose, mon gars, man, on spamme ta page, on sait que le résultat va sortir dans pas long. Moi, j'étais curieux de savoir comment les combats de Strania s'étaient passés. Fait que là, genre, j'étais le même sur mon téléphone, puis tu sais, j'étais au gym, puis de temps en temps, je refreshais, puis je dis OK. Finalement, je vois sa grosse face avec ses cheveux roses, là, en train d'écrire, je me disais, tabarnak, qu'est-ce que c'était. Y avait-tu un gars qui faisait des pauses sur ta page? Un gars qui le faisait pour toi?
Heureusement, de la manière que c'était setupé, on avait comme du temps entre chaque combat. Fait que j'ai réussi à faire mes pauses, mais tu sais, moi, ça, c'est une grosse affaire que j'ai changée dans ma page. T'sais, comme justement, je sais que tu as fait une entrevue avec Max, là. D'ailleurs, c'est pour ça que je te demande pas sur genre la petite interaction que tu as avec Cobb et tout. T'as full bien parlé de ça sur l'entrevue à Max. Max, c'est notre boy. Fait que vous irez voir l'entrevue à Max si vous voulez savoir l'interaction que Charles
Le
avec Cobb Swanson.
shout-out.
Puis. Mais tu sais, moi, tout de suite, j'ai vu Max, puis, tu sais, comme tu lui as dit un peu, tu sais, je voyais du raw potential dans lui qui n'était pas full exploité, puis j'étais genre big. Moi, je ne serais pas, genre, la personne que je vais voir quelqu'un, genre, dans le même domaine, tu sais, climb through the ranks, puis me dire, ah oh non, ce gars-là, c'est comme c'est ma compétition, c'est. J'étais le gros, lui, il est bon, il est passionné, je le veux, man. Il peut faire tout le contenu qu'il veut de son bord, je m'en calisse, je le veux sur ma plateforme pour en parler, parce que c'est un vrai passionné. Même affaire pour Greg. T'sais, je l'ai connu parce qu'il allait à l'école avec Ada Daichka à Granby, puis je me suis rendu compte que ce gars-là, c'est un esti passionné. Puis, t'sais, gros, on s'entend pas pantoute sur plein d'affaires.
Qui
Lui,
a
c'est un esti.
Greg,
Ouais, il
il
est
est
vraiment
next
cool.
level,
Mais ça,
Greg. Il est
lui, c'est un
tellement
esti fan
gentil,
fini.
man.
Exact, c'est ça. Puis lui, c'est comme. C'est ce que j'aime, c'est que lui, il amène vraiment. T'sais, moi, je veux pas dire ça pour être hot, mais t'sais, moi, je vous connais tous. Pratiquement, là, les combattants, les coachs, je connais, je suis dans le gym, je m'entraîne, je fais du jiu, je suis plus dans le milieu. Puis lui, il a vraiment plus la perspective fanboy, genre que des fois, je ne suis vraiment pas d'accord avec, parce que Charles Legault, comment tu peux avoir une visière teintée de même sur ce qui vient de se passer juste parce que tu aimes la personne à qui c'est arrivé, tu sais. Mais d'un autre côté, on a besoin de cette perspective-là aussi. Tu sais, c'est important à lui, c'est le gars que. Tu sais, s'il te connaît, s'il t'a déjà parlé, c'est parce qu'on a fait des podcasts ensemble, puis il était là. Plaster, lui, il capote, les gars, gros, Charles Jourdain, il sait je suis qui, puis tout, tu sais. Mais on a besoin de cette perspective-là. Puis on a besoin de la perspective à carabine, puis on a besoin de la mienne. Puis je trouve qu'ensemble, on crée tellement un bon tout, les trois. Puis quand on se retrouve les trois pour un événement, man, ça va tellement bien. Greg fait ses affaires, Max fait ses affaires, on calisse tout ça ensemble. Puis gros, le contenu qu'on a produit pour Samouraï, c'était juste cave, là. T'sais, le contenu, il nous pleuvait dessus. Tout le monde a tellement bien fait ça. Puis, heureusement, j'ai réussi à faire les posts moi-même en tant que tel parce que je n'avais pas de temps à meubler entre les combats. Mais tu sais, le vlog, c'est Carabine qui a tout fait ça. Greg m'a fait des entrevues d'après Cowboy, il m'a fait plein de contenu pour plein d'autres affaires, man. Puis, tu sais, sans eux, ça serait tough. Puis, je trouve ça important, man. Moi, j'étais un gars que, genre, j'aimerais là, que MMA Talk représente la communauté MMA au Québec le plus possible. Puis, n'importe qui que je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à ajouter à cette communauté-là, je suis prêt à l'avoir sur ma plateforme pour en parler. C'est important que ça soit pas juste moi. Je veux pas que ça soit le Faber Show. Là. Je suis pas là pour ça, moi non plus. Comme tu dis, toi, tu veux pas devenir populaire, puis tout, même si c'est ça qui est en train d'arriver, là, malgré toi. Moi, c'est la même affaire. Moi, je veux que le monde pense à MMA Talk, puis qu'il pense à tout le monde qui parle sur cette plateforme-là. Je veux pas que ça soit le Faber Show, parce que moi, je suis une opinion, mais je suis pas l'opinion. T'sais. Ce que je dis, des fois, c'est de la calisse de merde. Là.
En ayant trois points de vue différents sur une même situation, ça fait place à une conversation. Tu sais, tu parlais de Carabine puis Greg, puis toi, tu sais, ça fait en sorte que ton contenu est encore plus enjoyable, puis tu as la bonne vision des choses en prenant pas ça pour de la compétition, mais une façon que tout le monde puisse s'améliorer dans un contexte de trois personnes qui ont une expérience différente. Tu as une très bonne approche.